débatteur du jour, qui est Éric Woerth, député Ensemble pour la République de l'Oise, ancien ministre. Bonsoir Éric Woerth.
Bonsoir.
Bonsoir Alain Duhamel.
Bonsoir.
Bonsoir Alain Duhamel.
Donc vous allez débattre tous les deux de la justice, de son laxisme, de sa mollesse. Dans tous les cas, aujourd'hui, on a un garde des Sceaux qui aimerait bien changer le code pénal de façon à ce que les casseurs, lorsqu'ils sont attrapés, puissent avoir des peines de prison ferme.
Ce code pénal n'est pas adapté à la violence que nous connaissons. Je suis élu à Tourcoing, je vis dans la vie comme tous les Français. On voit bien que cette violence est extrêmement forte. Je propose de supprimer le sursis, qu'il n'y ait plus d'avertissement, mais que tout de suite, dès la première condamnation, ce soit de la prison ferme ou une peine extrêmement ferme. Et deuxièmement, qu'on puisse faire des peines minimales à partir du moment où le juge a reconnu la culpabilité de quelqu'un. C'est un changement radical, mais cette radicalité, on en a besoin.
Cette radicalité, on en a besoin. Est-ce que la justice est trop molle, Alain Duhamel ?
Écoutez, alors, d'abord, je trouve que quand il se passe ce à quoi on a assisté avec ces violences, les déprédations, les provocations, etc., les pillages, ça n'a pas d'excuse. Et donc, ceux qui, comme par exemple les Insoumis, ont dit « tout ça, c'est la faute de la police », ben non, c'est pas la faute de la police, c'est la faute de délinquants, qui sont des délinquants. Bon. Ensuite, Je ne peux pas m'empêcher de me dire que à chaque fois qu'il y a à la suite d'un événement des émeutes et des débordements de ce genre, il y a toujours la même exploitation politicienne systématique. Alors, ça prend différentes formes, mais la première des choses, c'est que quand on voit se produire les événements qui se sont produits, on peut pas dire que ce sont les magistrats. Les magistrats, ils sont pas intervenus encore au moment des événements. Les événements, c'est la police. Et ce sont pas les policiers qui sont en cause. Ceux qui sont en cause, ce sont ceux qui dirigent les policiers, ceux qui décident des moyens, de la stratégie à utiliser, de la localisation, etc. C'est eux qui sont les responsables directs. Les magistrats, ils n'arrivent que après.
Oui, mais il y a un sentiment d'impunité peut-être chez certains. Et ça vient de ce qui s'est passé avant.
Mais bien entendu. Mais c'est la deuxième chose que j'allais dire, les magistrats appliquent, alors on peut toujours contester l'application, oui. Mais ils appliquent aussi la loi, les instruments par exemple. Il y a les sursis ou pas les sursis, il y a les aménagements de peine ou pas les aménagements de peine. Et ça, c'est pas les juges qui décident, c'est la loi qui le décide, c'est-à-dire le Parlement qui le décide.
Il y a souvent un fossé entre la peine prévue et la peine prononcée.
Mais non, mais évidemment, on dit toujours, par exemple, on encourt 10 ans de ceci, et alors c'est bizarre, ça arrive à un an avec sursis, évidemment. Mais ça, c'est dans l'interprétation de chaque délit individuellement. Mais la récupération, elle existe, on la voit à chaque fois. À chaque fois, il y a, quand ça rate, comme ça a été le cas, quand il y a des déprédations, quand il y a des pillages, on voit ensuite systématiquement la récupération politique, avec cette fois-ci une particularité, c'est que la surenchère a lieu entre le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux.
Gérald Darmanin, il a assez raison. C'est une prise de position qui n'est pas courante de la part d'un ministre de la Justice. C'était plutôt une prise de position normalement d'un ministre de l'Intérieur, mais le ministre de la Justice souvent dit je ne commente pas les décisions de justice.
On les confond maintenant les deux.
Je ne rentre pas dans les affaires individuelles. Bon, là, Gérald Darmanin, il brise un peu ce tabou. Il a raison parce que c'était très hypocrite comme manière de faire. Donc il peut, alors il s'en prend pas aux magistrats, ça va de soi, mais il indique qu'il faut changer les choses, que si les magistrats appliquent la loi, la plupart du temps,
il veut une peine, des peines minimales.
Quand ils n'ont pas les moyens, au fond, de prononcer les peines qu'ils devraient prononcer, il faut qu'ils puissent le faire. Enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup de lois, quoi. Il y a des lois de sécurité, alors sous toutes leurs formes. Il y en a un nombre considérable.
Une vingtaine.
Donc, je pense que les outils, les instruments existe aujourd'hui et qu'on voit bien que ces émeutes, ça c'est au fond des émeutes festives, il y a des émeutes d'un autre genre, là celle-là c'est on peut plus faire la fête tranquillement, il faut absolument qu'on casse du policier, qu'on casse du gendarme, mais aussi
qu'on
casse les magasins et qu'on pille les magasins
et le mobilier urbain.
C'est insupportable de montrer que dans une république on serait au fond impuissant. On n'est pas impuissant, c'est-à-dire que les forces de police qui ont été déployées, plus de 5000 policiers et gendarmes, c'est considérable, ça coûte une fortune,
ça pas suffit.
Et ça pas pas suffi à, ça a pas suffi. Ah ça a endigué, j'imagine, une grande partie des choses. Oui, parce que
mais
ça
est-ce que la justice est trop molle? Parce que c'est ça
a été bien pire. Bah, oui, dans ce genre de
voilà,
cas.
Elle,
dans
ce
genre
prononcé,
de cas, oui. Il faut, bah, si, il y a eu des, il y a eu
oui,
des,
là,
des,
il y a eu
des,
bah,
des, oui, pour une première vague.
Il y a eu des comparutions, immédiates. Donc là, il y a eu des peines. Et visiblement, et là, on est à un point parce qu'il y a aussi des profils très étonnants. Des personnes qui n'avaient jamais été condamnées, des gens qui avaient tout à fait normal et puis qui tout d'un coup perdent la tête et se retrouvent dans une sorte de furie et font n'importe quoi. Pour arrêter ça, la première peine est très importante. La dissuasion d'une peine, c'est très important.
Et le sursis, est-ce que c'est vrai
la dissuasion, c'est très important. Le fait, probablement, à un moment donné, d'être emprisonné, vous marque sans doute toute la vie, sauf si vous êtes un délinquant chevronné. Et donc, la dissuasion, elle est fondamentale. Et je pense que les petites peines, contrairement à ce que pensait Madame Taubira ou Madame Belloubet, des petites peines doivent être mises en œuvre pour éviter la récidive. Car lorsqu'il y a récidive, on rentre dans un cycle de récidive, donc il faut briser la récidive. Et moi, je trouve que d'ailleurs, à certains moments, on pourrait, parce que les magistrats sont aussi sans doute débordés, on est dans un état de droit, donc il faut quand même des preuves que la personne a bien été impliquée sur ce qu'on lui reproche, qui n'est pas toujours très simple. Bruno Retailleau propose la reconnaissance faciale. Pourquoi pas, avec évidemment,
on est sûr d'attraper les bons
en termes de liberté, car notre pays il a besoin de liberté, mais la liberté ne peut s'exprimer que si évidemment la délinquance est suffisamment
la reconnaissance faciale, c'est quand même un système qui est contesté parce que les libertés, les droits de l'homme, les garanties, il n'empêche que un des gros problèmes, c'est que quand la police, quand il y a ce genre d'émeute, arrête les gens, il y en a au moins un sur deux qu'on n'est pas sûr d'identifier. S'il y a reconnaissance faciale, là, on se trompe pas.
Les magistrats, depuis hier, expliquent que on ne donne pas aussi des, on ne prononce pas des peines de prison ferme. En tout cas, les prisons fermes, quand il y a une condamnation à prison ferme, c'est aménagé avec un bracelet électronique. C'est parce qu'il n'y a plus de place en prison.
Oui. Alors, moi, je dirais les choses autrement. Je dirais que le paradoxe, c'est que, à la fois, on demande aux magistrats d'être sévères quand il se passe quelque chose. Tout le monde a envie qu'ils soient sévères, en réalité. Bon, on demande des peines sévères, alors même qu'on sait que si on applique des peines sévères, on se heurte effectivement à un problème de « ah oui, mais il n'y a pas de place ».
Gérard Darmanin le sait bien.
Mais bien sûr. Et par exemple, quand un des deux ministres en question, d'ailleurs en l'occurrence c'est Gérald Darmanin, remet en cause le principe des sursis, on sait très bien que si on fait sauter le sursis, pour le coup, des gens à mettre en prison, il y en a des masses.
Oui, mais on peut Alain Duhamel, on peut aussi, Darmanin a proposé, je trouve que c'est une bonne idée, mais c'est une idée qui est appliquée dans d'autres pays, c'est d'avoir des prisons beaucoup plus légères, qui peuvent accueillir des gens sur quelques jours.
Pardon, vous êtes au pouvoir depuis 8 ans, Emmanuel Macron avait promis 15 000 places supplémentaires, je crois qu'on en est à 5 000.
Mais oui,
c'est aussi l'échec quand même des promesses.
Moi, j'ai une expérience encore plus ancienne, parce que les places de prison, il y avait même un secrétaire d'État à la justice, Pierre Bédier, chargé de construire des places de prison au moment de la présidence de Jacques Chirac. Il y a évidemment eu des places de prison qui ont été... pas suffisamment, parce que, au fond, la rigueur de la justice est de plus en plus importante. Et donc, il y a des gens qui... Donc, les places de prison sont occupées de plus en plus longtemps. Ce qui manque, c'est probablement la partie des très courtes peines qui sont très dissuasives. On a fait une connerie, on la répare et on n'y revient pas parce que la dissuasion a...
Comme ça, on libère des places.
S'il n'y a pas de dissuasion, à ce moment-là, on rentre dans un système de récidive sur lequel on a malheureusement assez peu de capacité à réagir. Il faut arrêter la délinquance au plus près. Et d'ailleurs, la toute petite délinquance qu'on voit de temps en temps... Et des procureurs, des maires peuvent demander à un procureur en disant tel truc, des tags, des choses comme ça. Dire c'est pas possible. Le procureur classe en général.
Mais c'est même pas jugé.
Il a plein d'autres choses à faire.
Les vols à la tire.
Il a plein d'autres choses à faire.
Vous faites voler votre vélo dans Paris. On va pas faire une enquête.
C'est classé et tout. Je trouve que le maire pourrait jouer un rôle. Si la personne est arrêtée, parfois il peut quand même l'être. Le maire pourrait jouer un rôle. Il pourrait être, puisque c'est un officier d'état civil, de police judiciaire, il pourrait être sous le contrôle du procureur, prononcer une très courte peine, qui serait évidemment sous l'autorité encore une fois du procureur. Et les maires qu'il souhaiteraient. On a besoin d'éviter la récidive à tout prix et d'endiguer endiguer ce genre de phénomène qui, où il n'y a pas que des voyous chevronnés. Il y a des gens, au fond, qui perdent la tête parce qu'ils sont dans une manifestation qui dérape brusquement. Le droit, et ça, il faut l'arrêter tout de suite.
Bien sûr, mais le droit, c'est l'individualisation de la peine. C'est de tenir compte de la personnalité de l'individu au regard aussi de l'infraction commise. C'est-à-dire, on met les deux dans la balance.
Oui, oui.
Bah, est-ce qu'il faut en finir avec l'individualisation de la peine? C'est-à-dire, ce qu'on regarde, c'est la faute qui a été commise. Et auquel cas, si vous avez tiré...
C'est-à-dire que vous proposez d'introduire la justice automatique.
Bah, c'est les peines minimales, c'est ça.
C'est la justice mécanique.
Bien sûr. Bah, les peines planchées, c'est ça.
Quand vous tirez au mortier sur un policier, même si c'est la première fois que vous êtes fait avoir, ce qu'on retient, c'est surtout le fait de vous tirer.
Je ne suis pas du tout partisan de tirer au mortier en général.
Je sais, mais là, c'est ce qu'on a vu.
Et sur la police en particulier, évidemment. Mais revenir sur l'individualisation de la peine, c'est revenir sur un des principes de base du droit pénal en France. Alors, c'est pour le coup, il faudrait vraiment beaucoup, beaucoup réfléchir avant. Mais en revanche, déjà, par exemple, on reproche toujours à la justice d'être trop lente. Et dans beaucoup de cas, c'est vrai.
Là,
dans
c'est les cas importants,
là, on ne peut pas du tout dire ça. Hein, on voit tout de suite ceux qui sont pris et identifiés. C'est pour ça que la question de la reconnaissance faciale est vraiment importante. Ceux qui sont identifiés, ils sont tout de suite condamnés. Bon, quand c'est la première fois, s'ils sont condamnés avec sursis, c'est plutôt bien qu'ils soient condamnés avec sursis la première fois pour leur faire peur et qu'ils se rendent compte de ce que
est-ce qu'il leur fait peur, est-ce que le sursis fait peur.
Mais alors le problème, c'est que ça dépend à qui on a affaire. Si ce sont des gens qui ne sont pas des délinquants, mais qui, comme ça se produit notamment après les événements sportifs, se sont laissés bêtement entraîner et commettre des actes que jamais ne commettraient autrement. C'est une chose. Si ce sont des bandes qui arrivent pour piller, c'est une autre chose.
Mais ça peut être d'attaquer plus au portefeuille. C'est un peu être un choix du juge. Je suis pour l'individualisation des peines, évidemment. Ça rime avec le sens de liberté. Sinon, on rentre dans n'importe quoi. Il faut une individualisation des peines. Mais la reconnaissance faciale pourrait conduire à une sorte de peine comme ça standard et massive. Mais s'il y a une reconnaissance faciale, pour être reconnu, faut déjà avoir commis quelque chose, parce qu'a priori,
il y en a beaucoup. On voit qu'ils sont masqués.
La reconnaissance faciale. Ah oui. Oui, bien sûr. Alors les gens, on n'a pas le droit d'être masqué. Donc comme ça, on l'arrête tout de suite parce qu'il est masqué. Et il doit y avoir la même peine que si c'était une reconnaissance faciale. Je pense que ce serait la meilleure façon de faire. Et s'il y a une reconnaissance faciale de quelqu'un qui est dans le magasin de chaussures de sport ce soir-là, il n'a rien à y faire dans le magasin de chaussures de sport quand il n'y a que des délinquants. Il est dans un endroit où on est en train de piller. Bah, peut-être qu'il peut dire que j'étais au mauvais endroit, au mauvais moment, mais je ne voulais pas faire autre chose. J'attendais l'ouverture du magasin. On aurait du mal à le croire. Donc je pense que c'est très très important que cette individualisation elle vale, mais que la participation à des éléments, à des événements massifs de délinquance puisse être réprimée et réprimée rapidement.
C'est une question un peu personnelle à vous poser, puisque vous-même vous avez été impliqué dans une affaire, l'affaire du financement libyen aux côtés de Nicolas Sarkozy.
Oui.
Est-ce que la justice, vous l'avez vue de près ? Vous l'avez jugée trop molle ?
Mais j'en sais rien, elle n'a pas encore décidé. La décision viendra au mois de septembre. En tout cas, ça a été un procès, alors c'est le contraire, c'était un procès au long cours, extrait 3 mois, c'est des heures et des heures d'explications, parce qu'il n'y a pas vraiment de preuves.
Puis après, une très longue instruction.
Très longue, des années, 10 ans d'instruction, donc c'est un autre type de sujet. C'est un sujet où là, la magistrature prend son temps, regarde, le parquet national financier exerce son métier avec une sévérité inouïe. Après, chacun est dans son rôle.
Donc elle est plutôt sévère, la justice.
Elle est très sévère, oui.
Donc elle est sévère
dans les réquisitions.
Il s'agit peut-être de responsabilité politique, elle est trop molle lorsqu'il s'agit de jeunes festifs.
Moi, je suis mal placé pour commenter, donc je ne le commenterai pas.
Oui.
Mais c'est autre chose. Là, on parle d'une délinquance de masse dans laquelle il y a des phénomènes de dégradation où on achète un mortier d'artifice pour le tirer sur des policiers. C'est un peu différent. Mais ce qui n'est pas différent, c'est qu'à un moment donné, vous avez le droit à vous expliquer. Vous avez le droit de vous expliquer. Les juges doivent appliquer évidemment la loi. Ils doivent appliquer. Et donc nul ne peut leur reprocher de ne pas l'appliquer, de l'appliquer. Mais parfois, ils doivent aussi intégrer les circonstances. Et souvent, ils intègrent souvent à charge, mais il faut aussi qu'ils intègrent à des charges. Mais là, c'est vrai, tout type de personne qui, à un moment donné, va passer devant la justice.
Et à propos des... Je reviens à ce qui s'est produit à la suite du match. L'utilisation massive de mortiers, ça pose quand même un problème. D'abord, de sécurité élémentaire pour les forces de l'ordre. Et ensuite, pour le coup... Il y aurait quand même quelque chose à faire sur le contrôle de la vente des mortiers. On n'est pas obligé de vendre des mortiers.
Vous voulez que tu en achètes, Alain Duhamel, ça se fait en un clic sur Internet avec le portable.
C'est très exactement...
Il y a déjà eu des lois là-dessus.
C'est très exactement ce que je déplore. C'est ça. Ouais. Parce que ça aussi... Parce
compliqué
que
d'interdire Internet.
Il y a le comportement des magistrats d'un côté, mais il y a aussi la technique de ce genre. Ben, on peut lutter. Il y a des formes de rejet.
Et ce qui s'est passé samedi soir, c'est quand même un échec pour la France, je suis désolé, mais à Madrid,
quand
le Real gagne la Ligue des Champions, les supporters ne saccagent pas la ville.
Bien sûr.
On est regardé par le monde entier et en Europe, tout le monde se demande qu'est-ce qui se passe en France.
Il se passe quelque chose de particulier, de français, qui est déplorable, ça c'est une évidence. C'est vrai que dans la plupart des pays, pas dans tous. À Naples, on sait très bien qu'il y a de la violence.
Et en Argentine,
après les matchs de football, et en Argentine aussi. Mais il n'y a pas à se vanter. On est une exception européenne. Et cette exception européenne déplorable, effectivement, ça n'est pas lié au manque de moyens de la police, ça n'est pas la faute des magistrats, c'est aussi un problème de culture, d'identité, de psychologie, de rejet des règles.
Tout le monde pensait que ça allait mal finir, ça s'est mal passé.
Mais vous interdisez... C'est un truc qui est infernal, parce que vous n'interdisez pas une démonstration de liesse.
La maire du 8e voudrait qu'on l'interdise
de toute façon, c'est très difficile à interdire. Et donc le préfet de police, il a fait ce qu'il pouvait.
Et le préfet de police, très professionnel. Il n'obtient pas toujours exactement les moyens qu'il a demandé du ministre de l'Intérieur.
Regardez les coûts, au fond. Quand on fait déplacer un détenu aussi dangereux que le Mohamed Emra pour aller rencontrer un juge d'instruction, le coût du déplacement de ce délinquant, enfin c'est pas un délinquant, c'est criminel,
et pour le coup, les magistrats qui refusent de se déplacer, franchement, c'est pas très facile à défendre.
Il y a des moyens énormes qui sont consacrés à plein d'enquêtes par ailleurs. Vous pouvez choisir. Au fond, il faudrait aussi avoir la transparence à un moment donné, de la police sur des opérations, également de la justice, sur un certain nombre de dossiers. Pas pour empêcher, mais pour qu'il y ait une transparence et qu'à un moment donné, les Français puissent se dire oui, c'est bien utilisé, ou on aurait dû au contraire plus insister sur telle ou telle chose.
Le laxisme de la justice et le transfert, l'extraction de Mohamed Amran, on en parlera avec le porte-parole du ministère de la Justice d'ici quelques minutes. Mais un dernier mot, Alain Duhamel, sur un confrère qui vient de disparaître, qui était d'un éclectisme presque hors norme, dirais-je, c'est la disparition du journaliste Philippe Labro, que vous aviez connu lorsque vous étiez ensemble à RTL.
Oui, je l'ai bien connu. Je l'ai connu 50 ans. Bon, tout le monde sait que c'est celui d'entre nous, si on parle de façon corporatiste, qui avait de loin le plus de flèches à son arc. Il était incroyable. C'est-à-dire que il était doué en tout, il était doué surtout. C'était un très bon présentateur de télévision, c'était, je l'ai éprouvé, un très bon patron d'une station de radio importante, en l'occurrence RTL, mais c'était aussi un romancier de grande qualité, c'était aussi un parolier pour Johnny Hallyday.
Un cinéaste.
Autrement dit, il était à la fois dans la maison d'édition la plus chic, Gallimard, et avec le public le plus large quand il s'agissait des chansons qu'il écrivait pour les uns ou pour les autres. Bon, et ce qui est étonnant, l'éclectisme, c'est déjà en soi, j'allais dire, presque une anomalie, et en l'occurrence, presque un monopole à ce point. Parce que je connais aucun autre journaliste qu'on puisse comparer de ce point de vue, ni de loin, ni de près. Mais ce qui était formidable, c'est que dans chacun de ces domaines, à chaque fois, il le faisait admirablement bien. Et ça, arriver à la fois à écrire un très bon roman, arriver à faire un film d'aventure, arriver à écrire une chanson, arriver à être à la tête d'une rédaction, franchement, d'abord, je n'en connais pas d'autres en France aujourd'hui, mais surtout, je n'en connais pas d'autres avant qui étaient capables de faire la même chose. Donc, d'une certaine façon, ça a l'air pompeux de dire ça, mais il était unique.
Merci Alain Duhamel, merci Eric d'avoir été avec nous.